Gascodeur Podcast, épisode 269. Log4j devient Turing complet. Enregistré le 20 décembre 2021.
Merci à tous les gens qui nous ont aidés sur Patreon en cette année 2021. Je souhaite à tous une joyeuse fête et maintenant je vous laisse à votre épisode avec Antonio et Guillaume.
Bonjour et bienvenue dans l'épisode de 269 des Cascodeurs. On est en petit comité aujourd'hui, donc c'est Antonio et Guillaume qui vont vous parler de cet épisode.
Vous parler épisode, et vous chanter aussi.
Bon, on va faire des petites comptines de Noël.
Bah oui, on va faire des
attention, ça va être ça va être chantant. Et j'aurais dû préparer, tu sais, les petits jingles justement, parce que bon, je peux faire ça.
Génial.
Mais j'ai pas pensé à préparer
le petit jingle de Noël.
J'ai pas pensé, trop bête. Alors. Je vais commencer en tout cas par une nouvelle pas très réjouissante, une nouvelle assez triste. Je ne sais pas si vous le connaissez, il était peut-être pas forcément très 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 connu dans la communauté Java, mais on a perdu un développeur Java que j'aimais beaucoup personnellement, qui s'appelait Stéphane Maldini, qui est mort très brutalement là il y a une semaine ou deux. C'est une triste nouvelle. C'est quelqu'un que moi je connaissais depuis très longtemps parce qu'il était impliqué dans l'écosystème Grails. Donc je le connaissais depuis, la fin des années 2000, 2008, 2009, peut-être quelque chose comme ça. Il avait contribué à pas mal de plugins Grails, y compris même des plugins JSF pour Grails, mais aussi des plugins sur tout ce qui était réactif. Et en fait, Stéphane était beaucoup plus connu, en tout cas pour le fait d'avoir co-fondé le projet Reactor. Reactor qui a vraiment... Enfin, il y avait RxJava, etc., mais c'est vraiment Reactor qui a, j'ai l'impression, le plus popularisé et modernisé le concept de reactive programming au sein de la communauté Java. Et c'est aussi lui, quand il travaillait chez Pivotal, qui a aussi participé à la création, qui a été à l'origine de R2DBC, qui est le fait de rendre en fait les drivers, enfin, ou les bases de données, pas forcément que le driver, ou créer des drivers, rendre les bases de données réactives et non pas bloquantes et à attendre que tous les résultats soient envoyés avant de pouvoir faire quelque chose. Donc, après Pivotal, il avait rejoint, là, il y a, je sais pas, un an ou deux à peine, Netflix. Donc, si vous regardez les séries Netflix, aujourd'hui, pensez à Stéphane. C'est un petit peu grâce à lui que toute l'infrastructure Java de Netflix tourne et utilise des choses sur lesquelles il a travaillé. Donc une petite pensée pour Stéphane. J'en ai un peu des petits trémolos dans la voix parce que
je ne connaissais pas. J'ai vu passer la news, mais c'est vrai que je ne connaissais pas.
Il avait parlé à Devox, et d'ailleurs, je crois que c'était à Devox où on avait fait un talk ensemble, et moi, je le voyais de temps en temps, soit des conférences Groovy Grails à l'époque, ou après Spring 1-2-GX, il avait fait les keynotes, et donc on se retrouvait à San Francisco, à Washington, à Dallas, à Londres, etc., donc à chaque fois qu'on se revoyait, c'était un peu la fête, donc voilà. Donc une petite pensée pour Stéphane. Après, on peut passer sur des choses plus gaies. Par exemple, CloudBees qui a clos un tour de table de 150 millions de dollars qui valorise l'entreprise à 1 milliard de dollars.
Mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent Arnaud,
je sais pas. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il est peut-être en train de fêter et dilapider tout l'argent.
Il fustoie dignement.
Voilà, bon, on attend qu'il nous paye un bon coup. Bon, je sais pas si vraiment lui en aura une grosse portion, en tout cas. Mais en tout cas, félicitations, Sacha Labouré et toute l'équipe à l'origine de CloudWiz pour tout ça, quoi. C'est un très 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 beau parcours.
Ouais, c'est vrai que pareil, tu parlais de conférences et tout, je me souviens encore de Sacha à un anniversaire du Paris Jug. Un anniversaire du Paris Jug, il était venu avec Marc Fleury.
Ouais.
Et c'était les tout débuts.
D'accord.
Il était encore dans le Hatrun, AdDev.
Ah oui.
C'était les tout débuts de CloudBees et Et voilà, ils sont là, mais un peu comme JFrog, un peu comme tous ces potes-là qu'on se traîne depuis 15 ans et on les voit faire des super belles histoires, quoi.
Ouais, et moi, je me souviens aussi d'un des Java One où j'étais présent, où Sacha était déguisé en abeille.
J'ai une photo avec lui aussi, voilà. Le Java One. Ouais, ouais.
C'était un bon souvenir.
En tout cas, et, bravo.
Voilà, bravo. Bravo. Bah, bonne continuation, c'est pas fini. Hein. Et sinon, l'autre gros sujet du jour, alors on n'est peut-être pas les plus gros experts dans l'équipe sur le sujet, mais vous avez peut-être entendu parler de Log4Shell, un nouvel exploit, un nouveau CVE qui utilise la librairie Log4j 2, hein, la version 2, pas la version 1. Donc cette grosse faille de sécurité, si vous utilisez une version plus ancienne que 2.15, vous pouvez être affecté potentiellement. Ça a été découvert là par un chercheur en sécurité d'Alibaba Cloud, et il y a différents détails là qui ont été publiés par LunaSec. Donc grosso modo, hein, je schématise peut-être un petit peu, mais donc Log4j 2 permet en fait de faire de l'interpolation de texte de chaîne de caractères dans les messages de log qu'on peut loguer. Et en fait, on peut remplacer des parties genre $ parenthèse ou je sais plus trop quelle est la syntaxe par des choses qui vont être remplacées. Or, il y a un support de JNDI qui permet, donc avec une expression régulière qui va bien, $JNDI, etc., d'accéder à des informations, par exemple, je sais pas, un user connecté ou des choses comme ça, auprès d'un serveur LDAP. Mais un serveur LDAP, lui, il peut retourner aussi, pas que des informations textuelles, mais aussi éventuellement du code binaire, comme une classe, comme du bytecode Java. Et lors de la désérialisation de ce truc-là, en fait, Log4j peut exécuter ce bytecode Java. Donc potentiellement, ce qui peut arriver, c'est que le message de log va exécuter du bytecode distant, mais l'exécuter en local. Et à ce moment-là, la classe qui est exécutée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut exfiltrer des données, elle peut regarder les variables d'environnement, elle peut faire un système exit, elle peut faire tout un tas de choses, ou système exec en particulier, pour exécuter des choses en local sur la machine, et donc, exfiltrer des données, espionner, faire du malware quelconque. Donc, c'est une grosse faille. Ça a été patché quand même très rapidement. Donc là, les heures ou journées qui ont suivi, l'équipe de Log4j a proposé des patchs. Alors c'est pas forcément les patchs qui étaient parfaits, parce que la preuve c'est qu'ils ont refait. Il y a d'autres failles qui ont été retrouvées, et du coup, donc on est passé à la version 2.15, 2.16, puis 2.17. Faut suivre un petit peu l'actualité pour être au top, en tout cas des dernières failles découvertes autour de ça. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi Seki sur Logback qui du coup a cherché des choses côté Logback et qui a trouvé aussi des choses intéressantes, alors pas de ce calibre là mais du coup ça, il y a tout un tas de chercheurs qui ont regardé en sécurité, qui ont regardé les failles possibles. Et on a mis aussi là dans les liens un cheat sheet publié par Sneak, s'occupe de sécurité, avec différentes approches pour remédier à cette faille.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que j'ai vu passer une news qui concerne la plateforme Java dans les journaux.
Dans les journaux, ouais.
Le Monde, le Monde parlait de...
What?
Et à cause de ça, j'ai quelques potes qui sont pas du tout du monde dev, hein, qui m'ont contacté en off en me disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Java et tout, c'est quoi Java et tout, machin ?»
Ouais.
Bon, alors il se trouve que moi, j'étais pas du tout impacté, j'étais sur un autre sujet là. Mais c'est marrant de voir que... Et j'ai un ami américain, pareil, qui m'a envoyé le lien d'un journal américain, enfin lambda quoi.
Ouais.
Donc c'est un peu passé partout sur la planète Terre.
Et puis tous ceux qui disent oui, comme langage Java c'est has-been, c'est mort, etc. Mais c'est là que tu réalises que Java
c'est utilisé partout.
Quoi.
Non, c'était rigolo parce que alors il y a eu un côté moins sympa, c'est que l'équipe va bosser d'arrache-pied hein,
ouais.
Pour livrer Log4j 2.16 et 17, et ils se sont pris plein de scuds et de messages pas super sympas, à tel point que un des leads du projet a fait, il a tweeté, en gros, arrêtez de nous faire chier, on bosse.
Ouais.
Mais sinon, il y a eu quelques mèmes assez marrants, et j'en ai vu passer un qui m'a fait marrer, où il y a une architecture incroyable avec des trucs, des flèches, des machins, des bidules, et puis tout en bas, il y a le Log4j. Et qui dit voilà, ta super architecture en fait. Voilà.
Ce que j'aime bien, ouais, c'est celui où tu vois, tu as tous les empilements un peu de pierres, de briques, les unes au-dessus des autres. Et tu as juste vraiment tout en bas une toute petite brique, mais qui rend tout l'édifice complètement bancal. Et celui-là, c'est Log4j. Ah ouais, ok. Mais bon, c'est là, ça pose des. Enfin, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes quand même dans cette faille. Bon, au-delà des problèmes de sécurité que ça pose, c'est que on s'aperçoit que des fois des petites briques de base mais sont utilisées vraiment de manière globale partout, vraiment partout, et que finalement tu as juste quelques mainteneurs qui passent un petit peu de temps par-ci par-là à travailler dessus, à rajouter des fonctionnalités, mais c'est vraiment une bonne vieille brique de base,
oui.
Quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que c'est pas des gens qui sont payés à faire ça, alors qu'il y a très grosses boîtes, très gros acteurs, très gros éditeurs logiciels qui se basent sur ces technologies-là et qui ne subventionnent pas, qui n'aident pas à payer forcément ces développeurs-là. Après, ces développeurs-là ne le font pas forcément pour être payés, mais pour être utiles à la communauté, hein, bien sûr. Mais ça pose des questions intéressantes sur le à la fois la monétisation et la subvention de l'open source, quoi, des choses de base de l'open source. Mais en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est agréable à voir, c'est que ok, ils sont peut-être pas payés, etc. Mais ils ont réagi super vite pour patcher, pour réaliser des nouvelles versions que les gens puissent adopter rapidement. Donc ça, c'est quand même assez génial.
Et c'est la force de l'open source. Hein. Là, ouais. Clairement, on est en plein dedans. Imaginez si vous aviez une brique achetée, du code propriétaire, ouais. Et vous seriez peut-être encore en train d'attendre votre patch, etc. Donc, l'inconvénient, c'est que cette brique, elle est partout.
Ouais.
Mais l'avantage, c'est que l'open source a permis. Et puis là, en plus, c'est un dev d'Alibaba. Ils ont créé une CVE hyper rapidement. Enfin, tout est allé super vite.
Ouais,
bravo à l'open source. Si, et puis si vos boîtes, enfin on le dit souvent, mais c'est vrai que il n'y a pas une boîte qui n'utilise pas au moins un peu d'open source et reverser la communauté, c'est pas que du code, c'est plein de choses. Les boîtes pourraient accorder un peu plus de temps, un peu plus pour participer à ce genre de projet. Et si elles le font pas, au moins qu'elles aient la décence de pas gueuler sur l'équipe qui bosse d'arrache-pied.
C'est toujours facile.
En leur disant, mais vous êtes nuls, vous avez pas vite. Bref.
L'autre truc marrant aussi, tu vois, c'est que pour les projets open source matures, alors c'est un peu la règle de Pareto 80-20, c'est-à-dire tu passes 20% de ton temps à ajouter les 80% des fonctionnalités les plus fréquemment utilisées. Et après, quand ton projet est mature, finalement, tu passes 80% de ton temps sur les choses qui sont un peu à la marge, à la frange, etc. Et finalement, tu te dis, mais est-ce que Log4j avait vraiment besoin de rajouter l'interpolation de chaîne, de pouvoir récupérer des données à partir de JNDI, des annuals d'app? Tu te dis, peut-être qu'à un moment... En fait, on critique souvent l'open source. Ouais, mais regarde, ce projet-là, il n'est pas maintenu, il n'y a pas eu de commit depuis longtemps. Ouais, mais des fois, tu vas rajouter, tu te sens un peu obligé de rajouter des fonctionnalités à la marge, comme peut-être cette fonctionnalité-là quand elle a été rajoutée. Après, ok, ça peut être utile, mais bon, c'est un peu dommage, tu vois, des fois de juger de la vitalité d'un projet et du coup de se sentir obligé, toi en tant que mainteneur open source, de rajouter des petites fonctionnalités qui potentiellement peuvent être des portes ouvertes pour des failles qui peuvent arriver, quoi.
Oui, parce que Log4j, c'est vrai que il avait pas un rythme de mise à jour hyper élevé parce que
c'est mature,
ça marche, c'est hyper mature.
Une fois que t'as logué,
c'est bon. Une fois que t'as logué, t'as logué.
Après, l'autre sujet, on va peut-être pas l'aborder spécialement aujourd'hui, mais il y a tout l'aspect, qu'est-ce que tu logues, qu'est-ce qui est bien de loguer ou pas. Donc, tout ce qui est information, comment on dit en français, enfin, identifiable, PII, la PII, c'est des choses qu'on devrait peut-être pas loguer, et souvent des choses qu'on récupérerait d'un annuaire LDAP, typiquement, ça me paraît être comme des informations que tu devrais sans doute pas loguer. Donc des users, des logins, des choses comme ça, c'est peut-être pas des informations à loguer. Donc peut-être que ça aurait été intéressant de réfléchir à ce moment-là sur se dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment, si les gens veulent loguer n'importe quoi, ils peuvent toujours loguer n'importe quoi, mais si tu ne simplifies pas le fait de pouvoir facilement loguer des informations sensitives, peut-être que, enfin bref. Je suis pas derrière, après, je sais pas comment ils ont décidé de rajouter ces fonctionnalités-là, mais c'est intéressant.
Je pense qu'il y a un truc à faire de l'intelligence artificielle sur les logs et détecter quels sont les logs qui sont bonnes et pas.
Ouais. Après, il va te loguer des trucs qui devraient pas aussi. Bref, vaste sujet. En tout cas, ça a mis pas mal d'activité et de visibilité sur Java, ce qui est plutôt sympa. Moi, j'ai dû repasser sur tout. Donc, mon employeur m'a dit vous avez tel projet. Est-ce que ça utilise du Java? Est-ce que vous utilisez Log4j? Donc, j'ai dû faire le tour de tous mes projets qui ont un accès en ligne. Donc, vu que je fais du cloud, fatalement, j'en ai plus d'un et qu'il fallait que je vérifie, vérifier s'il n'y avait pas du Log4j. Et ça m'a pris un certain temps, mais ça allait.
À titre perso, moi, j'ai toujours mon code du Java Pet Store. Java EE7.
Oh yeah.
Et j'ai eu une PR. Enfin, j'avais totalement zappé. Je savais pas que j'utilisais Log4j là-dedans. Mais j'ai eu une PR de quelqu'un. Donc c'était super sympa.
Bref. Pas mal. Ouais. Allez, on va passer au langage.
Langage.
Kotlin. Alors, c'est l'ascension du K2, si je puis dire. Kotlin par l'assaut.
Joli.
En fait, le K2, c'est. Pour ceux qui... Enfin, alors, je vais expliquer les deux K2. Il y a K2 qui est la deuxième plus grande montagne, pour les fans de géographie. Et le K2, c'est le nouveau compilateur de Kotlin. Donc, l'équipe de Kotlin a fait une conférence en ligne, la Kotlin 2021 premier, où ils ont annoncé différentes fonctionnalités, dont ce nouveau compilateur qui est plus rapide, qui sert également de base en fait pour toutes les plateformes cibles supportées, donc que ce soit la JVM, que ce soit du JavaScript, etc. Il y a des nouvelles API pour créer des extensions pour le compilateur. Ce nouveau compilateur-là, il utilise en fait une sorte de langage intermédiaire. Donc plutôt que de compiler directement en natif, par exemple de créer du bytecode Java directement, de créer du WebAssembly directement. Là, en fait, il passe par un langage intermédiaire et ensuite, il y a une autre partie, un back-end, qui va créer le code natif qui va bien. Et même la partie frontale du compilateur a une autre présentation, un autre langage intermédiaire qui fait la partie traduction de sursyntaxique, c'est-à-dire quand il y a une boucle for, par exemple, il la retraduit en boucle while. Donc, il y a tout des petites choses au niveau du langage que nous on utilise en tant que développeurs qui sont vraiment purement syntaxiques, qui derrière sont compilées de manière éventuellement différente. Le compilateur est jusqu'à deux fois plus rapide, donc ce qui est pas plus mal, parce que le compilateur est plutôt pas très rapide chez Kotlin. Donc là, devrait être quand même assez rapide. Ils ont aussi annoncé le support de WebAssembly avec Kotlin WASM. Donc, il y a Kotlin JS qui existait déjà pour le JavaScript, pour les applis web, l'intégration JavaScript. Mais là, donc, il y a un support de WebAssembly natif, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser Kotlin aussi pour targeter, pour cibler le WebAssembly. Ils ont un nouveau plugin pour faire de la couverture de code, en tout cas pour la cible Kotlin JVM, qui est utilisable dans un plugin Gradle et donc après dans un pipeline de Continuous Integration.
Qui s'appelle Cover avec cover. Un K.
Ouais, Cover avec un K. Bon, ils mettent des KK partout.
Bravo.
Et Cover est compatible avec Jacoco.
Il y a aussi... Avec des C.
Et avec DC, par contre.
Jacoco.
Et il y a aussi... alors, c'est Google qui avait drivé ça, le Kotlin Symbol Processor, KSP, qui, a priori, remplace CAPT, K-A-P-T, qui était le comment on appelle ça, le processeur d'annotation de Kotlin, qui est normalement plus, voilà, plus rapide, plus ergonomique, plus facile à utiliser, a priori. Donc, KSP est maintenant stable, et a priori, j'ai l'impression qu'il faut l'utiliser à la place de KPT pour ceux qui l'utilisaient avant. Côté Groovy, il y a Groovy,
oh là là,
4.
Groovy 4 qui arrive.
Alors, il arrive, là, c'est la release candidate qui est sortie. Donc là, je sais pas si ça va être sorti avant Noël ou peut-être plutôt en janvier, je sais pas trop. Parce que là, avec les fêtes qui approchent, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est incessamment sous peu. La version 4 va sortir. Alors, il y a plein de petites choses et des grosses choses, d'ailleurs. Il y a de tout. Par exemple, le changement des coordonnées Maven. Donc, au lieu d'être chez org codehouse groovy, maintenant, ça va être org.apache.groovy. Donc, il va y avoir du code qui, enfin, des builds qui vont casser si vous mettez pas ça à jour. Il y a des packages, certaines classes, historiquement, qui étaient dans des packages, qui étaient dans des jars, mais pas forcément au bon endroit. En fait, à cause des modules Java, du système de modules de Java, il y avait des classes, par exemple, pour faire du parsing XML, qui étaient dans un package Groovy utile, au lieu d'être dans un package Groovy XML. Et on n'a pas le droit de, enfin, avec les modules Java, que chaque chose soit à sa place. Donc, si tu as une classe, elle doit être dans un package, dans un module donné. Tu peux pas avoir des packages splittés à différents endroits, dans différents modules. Donc là, ça remet les choses un petit peu en place. Et on avait des classes qui étaient disponibles, en fait, pour des raisons de backward compatibilité, qui étaient disponibles dans d'autres packages d'utilité. Donc là, on fait un petit peu le ménage dans Groovy 4, vu que c'est la grosse version majeure. Il y a certains modules qui étaient optionnels. Par exemple, il y a un module YAML qui était optionnel quand on utilise le POM Groovy All qui tire les différents modules. Mais par exemple, il y a d'autres modules comme le support de TestNG que plus grand monde utilise, qui est devenu optionnel parce que ça n'a rien de tirer TestNG si on n'en fait pas. Le nouveau parseur qui était introduit dans Groovy 3, qui est le seul parseur, on avait gardé l'ancien parseur en parallèle. On utilise aussi Invoke Dynamic un peu partout. Avant, il y avait deux gestions de bytecode qui n'utilisaient pas Invoke Dynamic pour pré-Java 7, on va dire, et post-Java 7. Donc là, maintenant, on n'utilise que des versions modernes de Java. Côté langage, il y a des, syntaxes, etc., et fonctionnalités. Il y a le support des expressions switch de Java. Alors, je ne sais plus à partir de quelle version on a rajouté ça en Java. Le support des sealed types, le support des records aussi qui est en incubation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que une approche que Groovy a toujours prise, c'est de proposer des nouvelles fonctionnalités qui viennent de Java, mais aussi sur des versions antérieures du JDK. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser, par exemple, les switch, les seal type, les records sur la version qui va bien de Java, qui supporte ces versions-là. Mais si on tourne sur les versions plus récentes de Java, ça va utiliser les records, les seal type, etc. de Java. Donc, il y a un certain niveau de compatibilité qui permet de supporter à la fois que les versions de Java, mais des fonctionnalités récentes, même si t'es pas sous la dernière version.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que tu peux utiliser les seal type et les records avec Java 8, Java 11?
Donc là, ouais, je sais plus quelle est la base, si on est encore en Java 8 ou Java 11, ouais. Mais ouais, c'est ça l'idée, ouais.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des type checkers. Alors, le compilateur de Groovy est extensible depuis longtemps, et par exemple, donc on est capable de créer des extensions de type checker Par exemple, là, il y en a un qui a été introduit qui est à la compilation, vous pouvez vérifier vos expressions régulières. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas avoir une erreur au runtime, mais à la compilation, ça va vous dire attention, il manque, je sais pas, une parenthèse pour que votre expression régulière soit valide. Ça, c'est pas mal. Alors après, faut dire que tu veux utiliser cette extension et annoter en disant attention, ça c'est une expression régulière. Mais en tout cas, voilà, c'est fait à la compilation et vous avez une erreur à la compilation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petites macros pour faciliter le débugage. Une intégration de Java Shell aussi à la console Groovy si on veut expérimenter un peu du cross-langage entre Groovy et Java. Une nouvelle annotation, enfin, je dis annotation, mais c'est une transformation d'AST, donc c'est comme le KSP anciennement CAPT de Kotlin. Nous, c'est en Groovy, c'est les transformations d'AST, mais c'est le même mécanisme d'annotation. Une annotation @pojo qui en fait va générer une classe Java, mais pure Java, c'est-à-dire que ça va pas être une classe Groovy avec qui dépend du runtime Groovy, mais qui va générer, quand on utilise la compilation statique, du code comme des pojo Java classiques. Il y a une intégration encore en incubation de design by contract, encore drivé aussi par des annotations. Il y a un nouveau module pour lire et écrire les fichiers de configuration TOML, T-O-M-L, et il y a un super module là qui est rajouté, la Gink. Je sais pas si on dit Gink ou Ginkyo, en fait, je sais pas trop. Comme le Link de .NET, qui permet, en fait, donc c'est une espèce de langage de DSL proche de SQL, en fait, qui permet de faciliter le travail avec les collections. Donc, on peut faire un peu des select, from, where, etc. sur des collections, des streams Java. Donc, ça, c'est assez fortiche.
Tiens, c'est pas mal, ça.
Ouais.
Et puis, il y a Trishagi que vous connaissez certainement puisque elle bosse pour JetBrains déjà depuis un petit bout de temps.
Java Champion.
Trishagi, oui, c'est vrai. Et Trishagi, je ne sais pas si vous avez, si vous suivez sa newsletter qu'elle fait chaque mois.
Tous les mois. Ouais.
Elle nous sert bien aussi pour avoir quelques infos. Elle reste chez JetBrains, mais elle arrête sa newsletter. Donc, c'est plus Trisha qui rédige la newsletter. Et puis voilà. Donc, moi, j'aime bien parce que c'est assez succinct. C'est toujours 4-5 pages. Elle détaille pas mal. C'est pas mal. Et là, les différentes news qu'elle nous met. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a Microsoft qui intègre le JCP. C'était une news, je crois qu'on en avait parlé au dernier Cascodeur, donc elle en parle. Elle parle aussi de Java 18 avec toutes les JEP qui vont intégrer Java 18, le projet Loom, toute la partie LTS de Java, etc., etc. Donc c'est une newsletter que j'ai toujours apprécié, moi, qui restera toujours dans le jargon de JetBrains, créé par d'autres personnes, mais Trisha a fait ça pendant 5 ans, et puis elle a dit, c'est ma 56e newsletter, il est temps que ça cesse.
Ouais,
voilà, donc merci Trisha pour ces super newsletters, et si vous ne connaissez pas, allez-y, jetez un œil, on l'a mis dans les show notes. Elle l'a toujours super bien fait avec Java. Toutes les dernières news et tout, vraiment sympa.
Voilà. Bonne lecture. Ensuite, dans la section librairie, framework, etc., il y a une nouvelle paire de bottes là qui est sortie, je crois.
Oh, joli Spring Bot, joli.
2.6. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le support des attributs SameSite pour les cookies de session, les applications à base de servlets. On peut configurer les health groups sur le port principal ou le port de management. Des améliorations du endpoint /info avec plus d'infos sur le runtime Java. du support pour tester les applis Spring MVC quand on utilise web, en utilisant Web Test Client, l'auto-configuration du module Spring Rabbit Stream, et le support de règles personnalisées, de nettoyage, filtrage, etc., des propriétés dans /env, du endpoint /env, ou dans config props. Après, moi, je ne suis pas un pro de Spring Boot, donc j'ai juste repris les points principaux.
Ouais, pareil, moi, là, j'ai laissé Spring Boot depuis un petit bout de temps, là, j'ai pas fait de Spring Boot depuis longtemps.
Parmi les tombes, en fait.
Surtout du Quarkus. Alors, je sais que Quarkus, là, ils viennent de sortir.
Mais il n'y a pas eu de version, parce que là, on a mentionné.
La 2.6, ouais.
Ah, d'accord.
Et je n'ai pas du tout suivi, donc on ne l'a pas mis sur les show notes, mais c'est okay. Vrai qu'il y a Quarkus 2.6 qui est sorti, et il y a Micronaut 3.2.
Micronaut 3.2.
Au mois de novembre. Alors là, c'est beaucoup de mises à jour. Typiquement, là, il supporte GraalVM 21.3 avec JDK 17. Pareil, hein, Quarkus aussi. Je ne saurais plus vous dire si t'es dans Quarkus 2.4 ou 2.5. Je vais me mélanger les pinceaux. Et la version 3 du plugin GraalVM pour Gradle. Support de Kotlin 1.6, on parlait de Kotlin plus haut, mais là il supporte Kotlin 1.6. Il y a plusieurs fonctionnalités là qui arrivent sur la partie HTTP. Il y a entre autres une annotation JSONView sur les paramètres body. Vous savez, JSONView là, c'est une annotation qui vous donne une vue parcellaire de votre JSON. Le timeout qui est configurable pour le handshake TSL, le support amélioré du serveur push HTTP2, amélioration aussi des WebSockets, support du protocole WebSocket et différentes mises à jour fonctionnelles de toutes les librairies là, Elasticsearch, OpenAPI, sécurité, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour la partie Micronautes. Et malheureusement, j'ai pas fait le même exercice.
Ouais, du coup, j'ai pas, ouais, on n'a pas regardé
pour 2.6.
Yes, mais voilà, donc les frameworks modernes et à la mode côté Java, voilà, ont tous eu des releases là ces derniers temps.
Et c'est rigolo parce que quand on vient du monde Java E, c'est vrai que le rythme est vachement plus soutenu.
Super. j'ai rajouté là un article de Cédric Champeau qui compare Gradle et Maven pour ce qui est en fait un petit peu on va dire l'esprit des deux outils étant assez différent sur le principe composition versus héritage. Donc autant les deux outils ont une approche convention over configuration, mais par contre c'est vrai que Gradle est plutôt basé sur la composition, alors que Maven, c'est plus une notion d'héritage, avec les héritages de pommes, etc. Donc, un des points donc dans l'article, Cédric compare l'approche, en tout cas, avec Maven et avec Gradle. Et dans sa conclusion, par exemple, il expliquait que c'est justement cette approche compositionnel, je ne sais pas si ça se dit, qui permet en tout cas au plugin Gradle d'être plus facile à maintenir, à être maintenu, à évoluer grâce à ces aspects compositionnels plutôt qu'à l'héritage. Et en fait, Cédric parle vraiment d'expérience là parce que donc il a rejoint il y a pas très très longtemps Oracle Labs et l'équipe Micronaut, et il travaille aussi donc avec Graham Rocher, le lead de Micronaut. Et vu que c'est vraiment l'expert dans tout ce qui est build, etc., il s'est penché, mais vraiment de manière vraiment les mains dans le cambouis, mais enfin jusqu'au coude et au-delà dans Maven. Donc au-delà de sa compétence sur Gradle, là, il connaît Maven un peu de fond en comble, et il souffre aussi avec Maven. Et du coup, il a vu, voilà, aussi un petit peu comment c'est fait de plus près sous le capot, autre que les aspects quand tu l'utilises en soi, quoi. Donc, c'est intéressant de voir les deux faces, enfin, et puis les faces cachées un petit peu de ces outils-là. Après, section infrastructure. J'ai mis ça dans l'infrastructure. Donc, GitHub qui collabore à la sécurité des packages NPM. Donc, GitHub, c'est un des stewards, je ne sais pas comment on traduit ça en français, un de ceux qui pilote les registres des packages NPM. Et du coup, la GitHub partageait dans un article les détails récents sur certains incidents de sécurité qui sont survenus. Donc, par exemple, l'injection de malware sur certains modules qui sont très utilisés, UA parser JS, Koa, ERC. Alors, Koa et ERC, je les connais pas. Et qui, en fait, des utilisateurs ont pu usurper le compte d'un des contributeurs ou des gens qui font les releases, et du coup créer une nouvelle version avec du malware qui va faire quelque chose, quoi. Du coup, ils insistent et mettent en place des choses, des mesures, en tout cas, qui rendent obligatoire la two-factor authentication, en particulier pour les administrateurs. Les contributeurs, les développeurs des packages, des modules les plus populaires hébergés sur GitHub. Et ils ont découvert aussi, grâce à des programmes de bug bounty, différents problèmes de sécurité qu'ils essaient d'adresser et de patcher. Donc c'est sympa de faire cet état des lieux et de montrer qu'ils sont proactifs pour la sécurisation des modules NPM. Ensuite, on a Jérôme Petazzoni qui partageait un article d'anti-pattern sur Docker.
Alors Jérôme est un ancien de Docker. Hein.
Ouais, un des fondateurs. Et du coup, il liste tout un tas de choses qu'il voit très fréquemment. Quand il voit des projets avec les gens qui buildent leurs images de conteneurs. Donc, par exemple, un anti-pattern classique, c'est d'avoir des grosses images, donc qui sont longues à charger, etc. Donc, il explique, il donne des pointeurs aussi sur comment les optimiser. Mais par exemple aussi, comment monter des volumes plutôt que d'inclure des gros datasets. Parce que des fois, dans une image donnée, on va avoir besoin de pas mal de données. Et justement, certaines images inclut le dataset au lieu de monter un dataset de manière distante, quoi. Donc il explique comment utiliser le montage pour monter un dataset plutôt qu'il soit inclus dans l'image. Par opposition, il y a aussi les images trop petites, parce que donc c'est bien d'avoir des images petites, faciles à charger, à transférer, à builder, etc. Mais parfois, il va manquer certains outils pour pouvoir investiguer, débugger des problèmes avec certaines images qu'on a créées. Donc, il parle des images distroless qui sont sympas à utiliser, etc. Mais par exemple, faire du from scratch, c'est bien, mais attention, parce que le jour où il y a des problèmes, on ne pourra pas faire grand-chose pour investiguer facilement ce qu'il y a dedans. Il voyait aussi l'utilisation de zip et de tar comme un peu un anti-pattern, parce que à chaque fois en fait que l'image va être utilisée, on va décompresser, utiliser du CPU pour décompresser ces fichiers-là, ces fichiers zippés, ces archives. Et en fait, au final, souvent c'est fait dans l'image même, donc il va y avoir l'image zippée dans l'image et le contenu dézippé aussi dans l'image, ce qui est pas très intelligent. Donc autant qu'il soit déjà dézippé qu'il n'utilise pas trop de CPU pour ça. Quand des bases communes, des images de base sont rebuildées tout le temps, autant au lieu de la rebuilder tout le temps, autant mettre l'image de base dans un registry plutôt que de la reconstruire à chaque fois, et du coup récupérer cette image une fois qu'elle a été buildée et pas la rebuilder à chaque fois. Il y a quelques bonnes pratiques aussi qui proposent, par exemple, quand on a des gros monorépos géants, quand on veut construire des images faites de multi projets et créer autant d'images que de projets. Donc par exemple sur comment séparer les projets, avoir un Dockerfile par projet, etc. Il expliquait aussi que ne pas utiliser Buildkit, c'est plutôt un anti-pattern, mais aujourd'hui quand on utilise Compose et autres, ça utilise de toute façon Buildkit par défaut. Avoir besoin de rebuilder pour chaque changement minime, donc faut savoir faire des bons layers dans ces images. Utiliser aussi quand on build son image ses propres scripts shell, alors qu'il y a des outils comme Compose, Scaffold, Tilt, etc. qui font les choses très très bien. Donc autant utiliser des outils matures qui font le job. Qu'est-ce qu'on a d'autre? il y a une pratique qu'on voit assez souvent, c'est-à-dire des outils qui proposent en fait des images Docker des outils de développeurs. Et donc il existe par exemple, si je prends l'outil JQ pour parser du JSON, modifier, transformer du JSON, etc. On peut l'utiliser au travers d'une image Docker. Mais je veux dire, c'est des outils aussi que les développeurs peuvent installer facilement aujourd'hui sur leur environnement, sur leur machine. Donc, pas forcément besoin absolument de tout containeriser à tire-larigot. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin voilà, d'autres anti-patterns sur le nommage entre les scripts et le nom des images, le fait de builder dans des Dockerfiles qui complexifie aussi les choses. Donc il y a tout un tas d'anti-patterns que Jérôme a collecté dans cet article-là.
Bravo Jérôme.
Ouais. Séquence cloud, d'ailleurs, je regarde par le ciel, mais il y a pas mal de nuages aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai.
Toi aussi,
ouais,
c'est bien
pareil,
gris. Hein.
Tout pareil.
Il y a mon collègue Ludovic Champenois qui travaille sur le Runtime App Engine, Google App Engine Java, là qui était de passage à Paris, là d'ailleurs. J'ai pas pu déjeuner avec lui la semaine dernière, mais c'était pendant ce déjeuner-là, moi mes collègues étaient là, où il a appuyé sur le bouton pour réaliser en open source le Runtime Java d'App Engine. Ce qui est intéressant, c'est l'approche. Donc là, je parle un peu pour ma crèmerie, évidemment, mais ce que j'aime bien quand même chez Google Cloud, c'est qu'ils essaient autant que faire se peut. Hein, tout n'est pas possible d'ouvrir open source et tout, parce que c'est compliqué d'open source toute une infrastructure. Mais en tout cas, tous les composants que les développeurs peuvent utiliser, Google Cloud essaie toujours de les open sourcer à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Et là, par exemple, donc il y avait certaines parties du SDK, etc., qui étaient déjà en open source. Mais là, on peut regarder un petit peu comment c'est fait sous le capot. Alors, ce qu'on va pas voir, par exemple, ça va être comment ça va utiliser l'infrastructure Borg des containers en interne sur Google Cloud. Mais en tout cas, tout ce qui est SDK, etc., librairie, API et tout ça a été open sourcé. Donc c'est bien pour éviter le lock-in et pour, si on veut se recréer un Google App Engine qui tourne ailleurs. Donc il y avait eu déjà ça, j'ai oublié comment ça s'appelle, une collaboration avec Red Hat, Red Scarf ou un nom comme ça, j'ai oublié le nom du projet, qui était une sorte de couche compatible App Engine qu'on peut faire tourner en dehors de Google Cloud. Donc ça va encore plus faciliter le fait de pouvoir faire tourner des applis qui tournent sur un runtime comme ça, runtime pass, plateforme as a service, le faire tourner ailleurs. Donc c'est plutôt sympa.
D'accord.
Et tu veux peut-être parler d'Azure, là il y a un rapport qui est sorti.
Ouais, alors vous savez que Azure depuis quelques années supporte Java. Et donc là, vous pouvez mettre un jar, un war, du JBoss, du machin. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'ils ont pas mal bossé avec Pivotal pour faire de l'Azure Spring Cloud. Donc ils ont toute une offre qui s'appelle l'Azure Spring Cloud. Et c'est essentiellement pour faire du Spring Boot avec Azure. C'est-à-dire qu'ils vont vous simplifier la vie. Il y a plein de starters pour utiliser les services Azure. Donc vous prenez votre Spring Starter, je sais pas, Cosmos DB, et bim, ça marche, vous avez Cosmos DB. Donc c'est vraiment toute une série de starters, de la conf, etc., pour avoir cette expérience qu'ils ont appelée Azure Spring Cloud. Et dans cet effort-là, hein, de promouvoir Azure dans le monde Java et l'écosystème Spring, eh ben ils ont eu cette idée, comme beaucoup, hein, de faire un survey, de faire un sondage auprès de développeurs. Donc là, il y a presque 300 développeurs, des développeurs, des architectes, des choses comme ça, sur comment vous utilisez Azure dans vos projets Spring Boot. Donc voilà, quels sont les problèmes que vous rencontrez. Donc ils se rendent compte que beaucoup de développeurs qui utilisent donc Azure Spring Cloud ont des difficultés de passer d'un monolithe à une version cloud. C'est-à-dire que oui, vous pouvez prendre votre monolithe et l'éclater en microservices, mais bon, voilà, vous pouvez aussi juste prendre votre monolithe et puis le mettre dans le cloud. Ça se fait très très bien, hein. Mais voyez, il y a pas mal de challenges, puisque la sécurité est plus la même. Enfin, il y a vraiment des tas de choses à prendre en compte comme ça. D'autres challenges aussi, c'est comment migrer d'anciennes versions de Spring Boot, parce qu'Azure Spring Cloud supporte pas toutes les vieilles versions de Spring Boot quand même. C'est-à-dire que si vous avez une vieille version de Spring Boot et si vous voulez la mettre sur le cloud, vous avez avant tout devoir passer par une mise à jour de vos librairies. Après, il y a aussi des développeurs qui ont du full Java et qui passent sur Azure Spring Cloud. C'est-à-dire qu'ils ont une application full Java ou Java E, avec JBoss et des choses comme ça. Et là, c'est un peu une double peine, puisqu'il faut, avant tout migrer votre code sur Spring Boot et ensuite aller sur Azure. Pareil, migrer le mainframe aussi. Donc, ils ont des cas de mainframe. D'autres challenges spécifiques au cloud, c'est la migration des bases de données, c'est-à-dire que vous avez votre base de données, elle est en prémisse, vous avez peut-être une base de données, je sais pas, DB2, Oracle, et vous voulez aller sur autre chose. Donc Azure supporte Postgres, MariaDB, MySQL, ils ont SQL Server, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme souci? Vous imaginez bien que quand vous êtes sur le cloud, le monitoring, ça se fait pas pareil. Donc ça, c'est un souci qu'il remonte aussi. Avec la différente... donc Azure supporte aussi Prometheus, Dynatrace et AppDynamics. C'est-à-dire que si on-premise, vous n'utilisez pas ce genre d'outils, vous migrez votre application sur le cloud, il va falloir intégrer ces différents outils et puis les prendre en compte dans votre cycle de monitoring de prod. Splunk, Elastic, hein, tout ça. Et après, c'était intéressant aussi de voir quels sont de tous les services, de tous les composants Spring sur Azure, quels sont les composants que vous utilisez le plus. Et donc là, ce qui revient, c'est config server, gateway, load balancer et circuit breaker. Donc voilà, c'est un sondage, qu'ils veulent faire de manière annuelle pour voir un peu comment la communauté Spring Azure évolue dans l'utilisation d'Azure, qui est une plateforme qui change énormément. L'année dernière, ils n'en étaient pas là, quoi. Ils supportaient pas autant de services Spring. Donc voilà, tout ça est en mouvement et c'est intéressant, je pense, de faire un petit snapshot par an. Et donc l'article est pas mal avec différentes courbes, avec des charts, etc. Et vous voyez comment tout ça évolue dans le temps.
D'accord.
Voilà, Azure.
J'ai rajouté quelques liens au sujet du web. Alors, il y avait un article qui était intéressant de Ahmad Shadid sur le CSS défensif. J'avais bien aimé le titre de l'article. Et qui propose en fait pas mal de bonnes pratiques CSS. Donc, comment écrire du CSS propre. Et en particulier, sans comportement bizarroïde suivant les navigateurs que vous utilisez ou qui répond bien de manière responsive. Donc ça couvre différents sujets comme l'utilisation de Flexbox, de l'espacement, la gestion aussi du contenu long. Donc quand on a des divs et que qui doivent tenir dans une certaine boîte, on va dire, comment on fait du clipping propre du texte, l'apparence des images aussi suivant la taille des boîtes, des divs, des fenêtres, etc., pour que ce soit pas ou tronqué ou que ça s'affiche pas très bien. Il propose aussi de regarder ce qui est media query aussi par rapport au vertical et non pas que par rapport à la largeur de l'écran. Ce qui était intéressant, j'ai jamais vu ça forcément avec le vertical, mais c'est vrai que ça a du sens aussi. Comment gérer le texte au-dessus des images ou bien la gestion des scroll bars, des barres de défilement qui doivent être visibles ou pas visibles. Donc l'article est très clair avec des petits exemples bien visuels et tout. Donc je suis vraiment pas un expert du CSS, mais j'avais trouvé ça intéressant de voir des bonnes pratiques ou les choses à utiliser ou les choses à ne pas faire. Et toujours sur CSS, il y a Josh Como qui a partagé un nouveau CSS reset. Alors c'est marrant parce qu'il y a 40 000 versions des CSS reset pour resetter les feuilles de style pour vraiment avoir un style commun entre tous les navigateurs, etc., qui n'ont pas forcément les styles de base parfaitement communs, etc. Ça garde quand même certains principes des feuilles de style de base qui sont vraiment communes, genre du texte italique, ça reste italique. Donc à la limite, là, c'est peut-être plus cosmétique, on va dire. Mais qui après propose qui détaille vraiment dans chaque, donc un CSS reset souvent c'est assez court, mais il détaille vraiment très précisément ce pourquoi il a fait tel et tel choix dans son reset, donc sur tout ce qui est box sizing, les marges par défaut, les hauteurs de ligne, des hauteurs basées sur des pourcentages, aussi comment utiliser par défaut des polices qui soient anti-aliasées pour que ce soit plus joli, le texte soit plus joli, plus agréable à l'œil, la gestion du word wrapping, c'est-à-dire du retour à la ligne quand les phrases sont coupées. Donc voilà, on peut peut-être même combiner les deux articles, le CSS Reset et le CSS Défensif, pour avoir le meilleur des mondes. Et puisque le CSS définit aussi les polices de caractère qu'on utilise, c'est ma petite transition pour cet autre article. Là, sur Google Fonts, qui partage, vous le savez, on peut utiliser des fonts hébergées sur le web, des jolies fonts qui proviennent de Google Fonts. Eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Elliot J. Stocks qui a participé à une base de connaissances avec tout un tas d'articles dans le Google Fonts Knowledge, une sorte de base de connaissances sur les polices de caractère et la typographie, avec des articles justement donc sur l'introduction à la typographie, comment choisir un bon interligne, comprendre comment ça fonctionne en fait la mesure des caractères, des lignes, etc., comment choisir une bonne typographie, une bonne police, et puis aussi il y a tout un tas de vocabulaire en fait propre à tout ce qui est typographie, police de caractère, genre le kerning, etc., et qui définit clairement au travers d'un glossaire toutes les définitions de ces mots spécifiques à la typographie. Voilà pour la partie web.
Alors la partie outillage, ça c'est un article que j'ai trouvé parce que y a un nouvel IDE qui va se pointer. Alors ça, c'est pas tous les jours. Hein. On a eu le binôme Eclipse IntelliJ IDE pendant longtemps. VS Code est arrivé, qui commence à prendre des parts de marché. Et peut-être pour ça, JetBrains annonce un nouvel IDE qui s'appelle Fleet, FL2ET. Qui est développé from scratch, hein, donc c'est pas une nouvelle version de IntelliJ IDE, c'est vraiment from scratch. Bien sûr, ils ont une petite expérience dans le monde des IDE, hein, donc ils vont utiliser quelques quelques briques de IntelliJ ID pour tout ce qui est processing de code. Mais par contre, ça serait une nouvelle interface. Alors, ils en disent pas plus, mais j'imagine s'ils font ça, c'est parce que VS Code commence à avoir un super support Java. C'est un IDE assez light. Moi, je suis encore hyper utilisateur d'IntelliJ ID, hein, mais c'est vrai que le démarrage est un peu long. Est-ce qu'ils veulent pas faire concurrence aussi à VS Code? Je sais pas trop. Mais en tout cas, ils disent qu'il sera rapide et léger. Donc,
Parce qu'ils ont quand même mentionné, je crois, le fait que tu peux éditer des fichiers. C'est-à-dire, tu sais, quand tu lances un VS Code vite fait pour éditer un fichier, t'es pas obligé de créer tout un projet, etc. Ouais. Donc, ça doit démarrer vite. Ouais. Tu peux éditer un fichier rapidement. Après, si tu veux en faire un projet parce que tu veux l'éditer et rajouter des classes, etc., tu peux le faire. Mais j'aime bien cette idée, tu vois, progressive, ouais. Ouais. De bah, tu commences par un éditeur de fichiers, même s'il y a quand même un support déjà avancé de certains langages, en tout cas Java, Rust et je sais plus trop quoi, je sais plus, il y a trois, et JavaScript, je crois que c'est les trois langages de base. Mais après, si tu l'utilises en mode vraiment IDE, du coup, tu vas pouvoir avoir le support plus avancé d'IntelliJ, quoi.
Oui, parce que c'est vrai que ouvrir IntelliJ pour pouvoir éditer juste une classe Java, ouais, ça, je le fais pas. Ouais. Je le fais pas. En tout cas, bon, ils sont en preview. Il faut demander une invitation. Je l'ai demandé à peine sorti. J'ai toujours rien reçu, donc je sais pas si c'est, je sais pas si limite. Et je crois qu'ils ont fermé les invitations parce qu'ils voulaient l'ouvrir.
Ouais, ça faisait déjà pas mal de feedback.
Mais j'ai toujours rien reçu. Ouais. Voilà. Donc peut-être un futur IDE.
Ouais, et ce qui est intéressant aussi, j'ai vu, j'avais une discussion aussi avec Romain Guy sur Twitter là-dessus. En fait, ils utilisent aussi Skia, la librairie graphique 2D, qui est aussi utilisée dans Chrome pour le rendu graphique, dans Flutter pour les applis mobiles ou autres, dans Android, mais aussi dans Firefox. Donc, ça utilise le même rendu, le moteur de rendu graphique 2D. Et c'est aussi pour répondre au fait que Swing dans Java, il y a un moment, il va falloir passer à autre chose parce que Swing évolue pas et pas, oui. Est à peine maintenu, voire peut-être qu'à un moment, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, mais ils avaient envie de l'enlever du JDK, comme ils l'ont fait pour JavaFX par exemple.
Oui.
Donc je pense que c'est très smart et très intelligent. De se baser voilà sur un autre toolkit graphique pour leur IDE et je pense que IntelliJ étant vraiment marié à Swing, tu pouvais difficilement en tout cas à mon avis de se défaire de Swing et d'utiliser autre chose. Donc ils savaient qu'à un moment il faudrait faire un nouvel IDE basé sur autre chose. Je pense que c'est peut-être la réponse à la question de est-ce qu'on peut faire évoluer IntelliJ avec un nouveau toolkit ou vaut mieux réécrire from scratch, tu vois, avec autre chose. Ça, c'est intéressant.
Donc, à suivre.
À suivre. Et j'ai pas demandé l'accès à la preview, ou j'ai peut-être pas été assez.
Je l'ai demandé, je verrai si je la reçois ou pas, et je vous dirai ce qu'il en est.
Et j'ai demandé quand même parce que j'ai vu qu'il y a plein de langages qui supportent pas dans leur preview, par exemple Groovy, Scala, etc. Et je leur ai demandé est-ce que vous allez supporter d'autres langages. Ouais, ben attends, on commence.
Ouais, attends.
On peut pas déjà tout supporter dès le début, quoi. Et là, je voulais partager aussi quelques petits outils de la semaine, enfin du mois ou de l'épisode plutôt, c'est des outils pour Mac. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi la mode d'Emmanuel
du scripteur
widescreen. En fait, là, lors de Black Friday, j'ai succombé à Black Friday et j'ai acheté un écran 49 pouces là de chez Samsung. Alors, c'est pas l'écran de gamer G9, tout ça. J'ai pris celui qui est plus pour la bureautique, même s'il le classe quand même dans les écrans de gamer. Et en fait, donc ça fait, je sais plus combien c'est 5000 pixels sur 1400, quoi. Et ça fait voilà 49 pouces, c'est-à-dire c'est deux écrans 16 neuvième côte à côte mais fusionnés. Et donc c'est bien
courbé.
Et courbé, ouais, et courbé. Courbé. Alors il y a le G9, c'est vraiment encore plus courbé, t'es encore plus immergé. Là le C, je sais plus comment c'est, CR49G ou G, je me rappelle plus du nom qu'il a, mais c'est une nomenclature de ce genre-là, c'est 49GR ou je sais pas quoi. Et sur celui-là, la courbure est un petit peu plus faible. Donc en théorie, il faudrait que je me mette genre à 1 mètre de distance pour que j'ai l'angle à 90 degrés par rapport à chaque pixel de mon écran. Quoi.
D'accord.
Bon, je me mets pas aussi loin, je suis plutôt à 50 cm, mais bon. Et en fait, dès qu'on utilise un écran comme ça, bah, c'est là que tu t'aperçois que tu vas avoir besoin d'outils pour gérer tes fenêtres. Jusqu'à présent, je le faisais pas hein, sur mon Mac, même quand j'avais mon écran externe. Bon, au pire, tu vois, j'avais mon écran du Mac et j'avais l'écran externe. Voilà, j'avais deux écrans. Là, maintenant, je n'utilise que ce grand écran-là, mais il est tellement grand, tu vas pas mettre tes fenêtres en full screen, mais tu vas mettre plusieurs fenêtres dans le même écran, dans le même space. Et c'est là que bah, organiser ces fenêtres et pouvoir faire des quarts, des tiers, des trucs comme ça, bah, tu t'aperçois que c'est super utile. Et donc, il y a une appli qui s'appelle Rectangle. Alors, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que celle-là, mais moi, c'est celle que j'ai utilisée. Je crois que c'est la même que Emmanuel utilise, qui permet, juste avec des petits raccourcis clavier, de facilement bouger les fenêtres, les mettre en un tiers, deux tiers, dans des coins, etc., de les mettre en grand, en petit et tout. Et c'est super utile. Mais j'ai eu un autre problème. Non, vas-y, tu voulais dire quelque chose ?
Non, moi, j'utilise SizeUp.
SizeUp.
Hyper longtemps parce que, pareil, comme toi, j'ai un grand écran. Alors, j'ai pas le même. Hein. j'ai un, je sais pas combien de pouces, et j'ai un deuxième écran aussi.
D'accord.
Et j'utilise énormément les bureaux virtuels et tout. Et rapidement, je me suis dit, mais en fait, je passe mon temps à les bouger, à mettre à droite, à gauche. Et j'utilise SizeUp depuis presque le début.
D'accord.
J'utilise Mac. Suite à la discussion que vous avez eue avec Emmanuel, effectivement, ouais, SizeUp fait pas les tiers.
D'accord.
Ouais, je sais pas pourquoi. Il fait moitié ouais, en haut à droite.
Moitié,
ouais, ouais.
Mais en fait, là, c'est justement, tu vois, sur les écrans panoramiques, même de faire gauche-droite, ça fait des fenêtres trop grandes. Et en fait, tu es content de pouvoir faire des tiers. Donc, ça fait un peu comme si tu avais trois écrans 4 tiers ou côte à côte, en fait. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai eu un petit souci aussi. Alors, tu peux avoir donc ta super définition 5K, éventuellement jusqu'à 120 Hz. Mais, alors déjà, il faut utiliser le bon câble, pas passer par un hub USB-C, Thunderbolt, machin, tout ça. Donc ça, j'ai géré ça. Mais en fait, quand j'avais voulu jouer un petit peu avec les différentes résolutions, côté rétina, par rétina, etc., et en fait, il y a certaines combinaisons qui marchent pas très bien et où l'écran est gris. Et en fait, j'arrivais pas à m'en sortir de ce truc-là. Et j'ai trouvé un outil que tu peux utiliser en ligne de commande qui s'appelle Display Manager, qui te permet, en fait, en ligne de commande, de scripter la configuration des résolutions de tes écrans, que ce soit l'écran interne du Mac ou tes écrans externes qui sont connectés. Donc, tu peux changer plein de trucs, hein, la luminosité, la densité de pixels, la fréquence de rafraîchissement, etc. Tu peux tout faire en ligne de commande. Et c'est un outil qui est utilisé souvent aussi par les équipes IT pour setuper des machines et qu'automatiquement elles se configurent comme il faut quand elles sont connectées à des stations d'accueil ou autres, quand tu arrives à ton bureau, des choses comme ça. Et ça m'a fait... ça, c'est un autre outil, mais que j'ai pas encore utilisé. Ça m'a fait regarder d'autres outils d'automatisation du Mac. Et il y a un outil qui s'appelle... Hammer Spoon. Je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais utilisé. Parce qu'en fait, quand j'avais recherché aussi des outils qui permettaient d'avoir des raccourcis clavier pour pouvoir redimensionner mes fenêtres, etc. En fait, avec Hammer Spoon, on peut faire aussi des choses comme ça, de créer des raccourcis clavier globaux. Mais en fait, c'est là que j'ai vu que ça fait plein d'autres choses. Donc, on peut scripter différents événements de l'ordinateur. Par exemple, tu rejoins le réseau Wi-Fi du boulot ou le réseau Wi-Fi de la maison, bah, tu peux lancer certaines tâches d'automatisation, envoyer des messages, faire des alertes ou je ne sais quoi. Ou un autre exemple, bah, tu branches Genre t'es à la maison, tu rebranches ton dock ou ton clavier USB ou je sais pas quoi, bah tu peux reconfigurer parce que toi tu utilises, je sais pas, un layout différent sur ton clavier ou une configuration spéciale de ta souris ou je ne sais trop quoi, bah tu peux réagir et reconfigurer ton ordi pour qu'il s'adapte à ces événements-là. Donc c'est un outil que je vais peut-être garder pour essayer de documenter quelques petits trucs sur mon Mac. Voilà.
Ah, d'accord. Écoute. Alors, on termine par loi, société et organisation. Bah, y a un article qui est sorti là dans The Record, où on nous dit que le FBI, donc il y a une information qui aurait fuité, hein, et le FBI aurait accès à certaines informations de nos messageries préférées.
Pourtant, alors, messagerie chiffrée et sécurisée, soi-disant.
Oui, alors, justement, typiquement, hein, donc il met donc les messageries d'Apple, Line, Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat, WhatsApp, WeakAir. Et selon ce type de messagerie, typiquement Signal, voilà, Signal, ils n'ont pas accès au contenu du message, mais ils ont accès à la date, à l'heure et à l'utilisateur. Et la date de la dernière utilisation du service. C'est-à-dire que le FBI peut aller voir Signal et leur dire « je veux connaître la dernière fois que Bob s'est connecté et les différents messages, enfin les différentes dates ». Donc ça, c'est Signal qui fait partie d'une des messageries les plus sécures. Donc ils ont accès à très très peu de choses. Et puis après, vous avez WhatsApp où vous pouvez. Enfin, ils ont accès à une partie limitée du message. Alors ils mettent pas quelle partie du message, mais.
Pas précis.
Et puis vous avez d'autres choses, d'autres métadonnées. En fait, là. Le FBI a quand même accès à pas mal de métadonnées, typiquement WeCare, c'est la date de la dernière utilisation, le nombre de messages aussi, donc ils peuvent savoir que vous en avez envoyé un ou 1000. Voilà, donc c'est une information qui a fuité. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un bruit énorme autour de cette information, mais peut-être que j'ai pas suivi. Donc il y a quand même Forbes qui en a parlé. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait une.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir que en fait, des fois, le contenu des messages est important et véhicule des informations critiques, mais les métadonnées, les informations qu'on peut avoir sur qui s'est connecté, a écrit à qui ou autre, ces métadonnées-là ont une valeur qui en disent des fois plus long, à la limite même, que le contenu des messages. Donc de voir que ces métadonnées-là, parfois, peuvent être récupérables ou que, ce qu'ils mentionnent aussi, genre si le FBI fait un sub-ponea là, pour avoir accès à telles informations, de savoir que tel acteur divulgue ou non telle information ou quelle information, en plus de ce que techniquement ils peuvent avoir accès, on peut, en tout cas, quand on le sait, on va se diriger plus vers telle ou telle messagerie plutôt qu'une autre.
Oui, il y avait déjà eu, durant le Covid, là, une fuite de WhatsApp vers Signal. Et là, typiquement, on voit que Signal est effectivement une des messageries les plus. Voilà, qui donne le moins d'informations au FBI, quoi.
Ouais.
Bon, voilà, une fois de plus, on se dit, mais que fait l'Europe là-dedans? Est-ce qu'on va avoir notre messagerie à nous?
Ouais, ça, je sais pas. Tu veux dire une messagerie souveraine, quoi?
Oui.
Bien sûr.
De mes souves.
Voilà.
On a fait le tour. C'était la dernière news 2022.
Ouais.
Il y aura des interviews là qui sont dans le pipe. Je crois que ça sortira début janvier. Et puis on se revoit pour 2022. Hein,
ouais, passez de bonnes fêtes de fin d'année, Joyeux Noël, bonne année pour ceux qui y fêtent.
Et prenez soin de vous quand même, hein, parce que
prenez bien soin de
parce
vous.
Parce qu'on a l'impression que ça repart un petit peu, tout le bazar.
Eh ouais. Alors vaccinez-vous bien, tout ça quoi. C'est bon pour la santé de tout
yes.
le monde. Et ben, à bientôt. Gros bisous.
Allez, ciao. Ciao. À 2022. Bye.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.